sans liberté. Une émission pour déménager la biologie. Liberté. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Et aujourd'hui, que le pinson prenne garde, nous allons parler du chat. Le chat, sagesse des civilisations ou sauvage destructeur? Quand on le voit s'avancer dans le silence de ses pattes en velours, on sait de suite qu'il faut dire « monsieur le chat ». Car le chat n'est pas n'importe qui. Le regard profond du chat devine vos pensées et contemple dédaigneux la moindre de vos actions. Il semble toujours que vous, vous habitez chez lui. Et l'indépendance signe la marque de sa vie secrète. Il est tout à fait stupéfiant d'imaginer la complexité qui est exigée de ce petit animal si farouche que ses griffes ne sont jamais très loin de vous. Le chat est aujourd'hui l'animal domestique le plus commun du monde. Sceptique en son intérêt, l'Asie le déguste encore dans un plat en sauce, et l'Australie lui a interdit tout accès à la rue. Si l'Égypte voyait en lui un animal sacré au point qu'il en fut momifié, l'Europe médiévale en a fait une émanation de l'ordre satanique et le sacrifiait sans relâche. Domestiqué pour chasser les souris, qu'il sait si bien traquer, ce petit félin démontre des aptitudes de prédateur totalement incroyables. Et cependant, il reste là, indolent, à saisir toute la volupté d'un bain de soleil, ou s'abandonne dans des rêves incompréhensibles qui peuplent son profond sommeil. Car il dort, le chat. Il dort. Mais toujours d'une oreille si attentive qu'il peut sortir de sa torpeur en quelques secondes. Cet acrobate du quotidien passe partout, franchit mille obstacles, grimpe sur les murs et court comme un funambule sur d'improbables filins tendus à plus de 20 mètres du sol. Noir, il provoque des frayeurs irraisonnées et superstitieuses. Et pourtant, ce seigneur de la nuit, on voit ses grands yeux impénétrables qui savent capter la moindre lueur du jour. Il sait accompagner ses cachotteries quotidiennes de 1000 déambulations nocturnes et clandestines. Ce vagabond fut associé à l'effigie de certains rois et il orne même le drapeau de notre CNT. Et cependant, ils sont nombreux ceux qui pâtissent de ses errances. Et notre petit matou si craquant est aujourd'hui désigné comme l'un des plus grands destructeurs écologiques de la planète. Il est vrai qu'à lui seul, compagnon itinérant d'un gardien de phare, il a fait disparaître une rare espèce d'oiseau endémique. On dit que le chat tue chaque jour une impressionnante biodiversité, car grives, taupes, belettes même ne lui font jamais peur. Traité comme un intrus indésirable dès qu'il flâne dans la nature, n'est-il pas cependant un invité de marque dans notre monde? Car il faut reconnaître que, à la fois impérial et libertaire, le chat ne livre jamais les clés de ses secrets. Notre matou reste un mystère absolu. Alors, d'où vient-il cet animal tout en souplesse? Et quelle est donc son énigme? Que fait-il recroquevillé dans son sommeil paradoxal? Que porte donc son regard acéré? En fait, même son ronronnement semble constituer un secret insondable. Qui est donc ce fantastique félin si lié aux humains qu'ils en ont fait tantôt un dieu, tantôt un diable? Vous êtes ici sur une radio pas comme les autres, Radio Libertaire, et nous allons parler du plus farouche des animaux de compagnie, le chat. The Village Stompers, qui nous interprétait Green Green, une vieille musique de 1960.
Bonjour à tous sur Internet et sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie. Aujourd'hui, dans notre nouvelle émission de Science en Liberté, nous allons parler des chats. Quelle est donc l'origine de notre petit félin ordinaire ? Ainsi donc, notre émission de Science en Liberté est dédiée à l'une des énigmes les plus étonnantes de notre monde, la vie de Monsieur le Chat.
Eh oui, bonjour Fiona, nous allons nous consacrer toute cette émission à ce petit félin énigmatique. D'abord pour en comprendre l'origine, mais aussi pour connaître ce mode de vie, ses mystères et tout ce qui s'attache à son comportement, les interprétations que les civilisations ont faites de ce petit monstre, et nous attarder sur le rôle de la domestication du chat et de tous les problèmes qui en découlent, car notre chat constitue un véritable problème, s'il y en a, avec près d'un milliard de chats domestiqués dans le monde. Mais ce n'est pas son seul secret.
Chapristi, Thierry ! Le chat s'avère donc une énigme animale. Il y a déjà la question de sa provenance comme animal domestique ou comme espèce. Il y a longtemps que les scientifiques essaient de comprendre quelle est l'origine de notre petit minet.
Alors le chat proviendrait d'un groupe zoologique de félins qui est apparu assez récemment, probablement au début du Pléistocène, comme d'ailleurs la plupart des faunes européennes qui se sont installées. Mais son histoire évolutive est évidemment beaucoup plus ancienne et remonte sans doute au groupe des myacidés du Paléocène, c'est-à-dire il y a 40 à 65 millions d'années, on est vraiment tout au début de l'installation des mammifères, avec les myacis, on les connaît depuis 42 millions d'années à peu près. Et ce sont
quand
les...
même 42 millions.
Oui, ça ne rajeunit pas. Et qui sont les premiers mammifères à présenter des canines en forme de crocs, et surtout des molaires qu'on appelle les carnassières. Ce sont les premières molaires avec la prémolaire du bas et la molaire du haut. Et la quatrième prémolaire, pour être précis, et la première molaire. Hein. autant être très précis. Donc à la fin, ce sont donc des vrais carnivores qui sont à l'origine aussi des ours, des canidés, des mustélidés et bien sûr donc des félins. À la fin du Miocène va apparaître une grande bifurcation avec un groupe qu'on connaît bien qui s'appelle les félins mordeurs qui se met en place et qui va se différencier des félins à dents de sabre, comme par exemple le Machairodus ou encore le Smilodon, ces grands tigres avec des grandes dents. qu'on voit dans certains films d'ailleurs, parce que ce sont souvent des animaux importants. Mais ces félins-là vont, sous l'effet de circonstances et des modifications de faune et de milieu, tous ces grands félins à dents de sabre vont s'éteindre, alors que les petits félins mordeurs vont, eux, se structurer, se diversifier. Il faut encore attendre 5 millions d'années pour que se constitue le vrai groupe des félinés, les chats, qui vont enfin se distinguer du groupe des panthérinés, qui sont les lions, les léopards, les tigres, etc.
L'espèce chat est donc en place, mais il reste encore l'énigme de sa domestication. Ce sont les Égyptiens qui sont considérés comme les domestiqueurs du chat.
Ah ouais, c'est en Égypte que tout ça commence. Un drôle de pays pour une petite bête comme cela. En fait, c'est la petite histoire a toujours fait provenir la domestication assez tardivement, puisqu'on pense qu'il y a à peu près 2000 ans chez les Égyptiens. On a des preuves modernes qui donnent quand même à penser que les choses ont été un petit peu plus complexes et surtout un peu plus anciennes. D'abord, on a découvert des chats associés à une sépulture humaine qui datait de 7000 ans, à Chypre, donc on n'est plus en Égypte. L'examen montre qu'il s'agissait bien d'un chat apprivoisé, car tous les signes de sa domestication ne sont pas encore fixés. On a encore affaire à un chat proche du chat sauvage, du chat forestier. La forme du crâne, les mâchoires, tout ça, c'est pas encore tout à fait en place.
Mais on ne sait pas à partir de quelle espèce le chat appartient, quelle espèce en fait.
Oui, en fait, le problème du chat domestique, c'est qu'il est très proche du chat forestier, Felis silvestris, qu'on appelle aussi le chat sauvage. Et comme le chat domestique peut retourner à l'état sauvage, évidemment, on se mélange des fois un peu.
Mais le chat forestier, c'est en fait le chat qui habite dans l'est de la France.
Oui, c'est ça, c'est le chat sauvage qui ressemble à un gros chat domestique tigré. Alors, il habite principalement en Europe, on va le retrouver quasiment de l'est de la France jusqu'à l'Oural. Bon, il faut se rappeler qu'il était quand même présent avant dans l'ouest de la France, on le trouvait aussi dans la région parisienne, mais cette espèce a beaucoup régressé en France. Alors c'est un animal plus massif, plus robuste, avec un pelage bien épais, rayé pour bien passer son temps dans la neige et dans la nature. Il n'est jamais tacheté, contrairement au chat domestique, et il est surtout reconnaissable avec sa fameuse queue touffue qui se termine par un poil noir relativement dense et facile à identifier. Alors il existe d'autres types de chats sauvages, on a parlé du chat du Bengale, etc. Mais le chat sauvage européen est vraiment caractéristique et c'est vraiment lui qui est à l'origine de toutes les espèces du chat domestique. Alors, il est pourtant plus grand, hein, il est plus grand, il est plus robuste, on l'a dit. De loin, on pourrait presque le prendre pour un renard, hein, tellement il est grand.
Mais il est différent du chat à raies qui est retourné à l'état naturel.
Alors oui, le chat à raies, c'est en fait le chat domestique qui, lui, est retourné très récemment à l'état sauvage. Ce qui fait en fait une chose un peu étonnante, c'est que le chat sauvage est donc à l'origine du chat domestique. Chat forestier à l'origine du chat domestique, qui lui-même va redonner des formes sauvages de chats domestiques qui sont repartis dans la nature. Mais bon, le chat forestier ne mange pas la même chose. C'est un animal d'abord qui est plus rare, qui est très farouche, il va s'éloigner des habitations humaines. Il va manger des petites proies, mais il est aussi capable de manger des plus grosses proies. Il les mange très différemment. Il peut manger des lapros, des lagopèdes. C'est un animal sauvage qui vit d'ailleurs dans une aire de répartition qui se superpose presque à celle du lynx. Hein. On n'est pas du tout dans un espace qui est différent de cela. Alors on l'appelle chat forestier parce qu'il évite en général les habitations, alors que le chat domestique à raies, lui, peut se retrouver très proche des habitations. Il n'aura pas la même manière farouche d'être contre, d'avoir peur de l'humain, d'essayer d'éviter la présence de l'humain. Le chat à raies va être au contraire compétent pour aller chasser des proies, même aux alentours de l'homme. Il a un peu peur si on le dérange, mais il restera calme, posé, et il est parfaitement capable de venir manger dans les environs. Plus comme souvent, il vient d'une forme domestiquée, puis qu'il a connu parfois même la domestication, ça ne l'embête même pas de venir manger dans la gamelle d'un chat domestique.
Voilà, c'est ça, disponible, voilà, ouais. Il est opportuniste, tout tandis que le chat sauvage, lui, sera beaucoup plus méfiant.
Ce chat domestique retourné à l'état sauvage, on l'appelle en général le chat à raies. Bon, il est très fréquent dans les villes, il se promène beaucoup dans les banlieues, il est très présent à la campagne, et c'est une espèce qui, évidemment, enfin, c'est la même espèce que le chat domestique, mais c'est un animal, évidemment, qui va poser les mêmes problèmes que le chat domestique. un petit peu moins, parce que il va être un animal qui va davantage avoir de dispersion, il va être un peu plus gêné par les autres espèces, et puis surtout il est un peu moins bien nourri, donc forcément il se nourrit de lui-même, donc il va avoir une attitude plus proche d'une prédation normale. Le problème qu'on verra avec ce chat arrêt, c'est bien entendu toujours le grand nombre de chats retournés à l'état sauvage dans la nature et qui ne sont pas des animaux sauvages qui devraient être là. Donc reprenons, on a d'un côté le véritable chat sauvage qui est le chat forestier, Felis sylvestris, qui est plus gros, avec une queue plus épaisse. Et de l'autre côté, on a le chat domestique qui, lui, très probablement, descend d'une sous-espèce proche des sous-espèces nord-africaines. Depuis, des études génétiques ont été effectuées sur près de 1000 chats, ont démontré qu'ils ont probablement été domestiqués vers 9000 ans, voire 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ça s'est passé probablement au Moyen-Orient, mais entre la Grèce et l'Égypte. Il y a des travaux qui ont été publiés en 2004 sur l'association entre l'homme et le chat qui suggèrent que les débuts de la domestication se seraient déroulés donc il y a 9000 à 7000 ans, juste avant la naissance de l'agriculture. Mais il existe au moins 5 épisodes de domestication différents qui se sont étalés dans le temps et dans l'espace.
Par 5 fois, il y a donc eu des tentatives qui ont échoué et notre petit Minet va enfin venir occuper nos foyers.
Oui, c'est ça, le chat a été domestiqué au moins 5 fois, et apparemment toujours à partir du même chat forestier. Mais en fait, cette domestication qui s'est faite 5 fois de suite n'a pas forcément échoué. Elle a pu se recombiner, se refaire de manière différente. De manière très très surprenante, en examinant des chats chinois, on a découvert qu'autre chose semblait encore modifier toutes ces hypothèses. Car il y aurait une autre espèce de chat, le chat du Bengale, qui n'est pas du tout un félis, mais un prionurus bengalensis, a aussi été utilisé en Chine comme animal apprivoisé, mais là, il y a environ 3500 ans. Apparemment, ce chat-là n'a pas réussi son coup, et il a été détrôné par le chat domestique, félis, devenu félis catus maintenant. Alors, les scientifiques ont analysé les mandibules de 5 chats du Shaanxi, qui dataient d'une période comprise entre 3500 et 2900 ans à peu près. Et leurs travaux ont pourtant été déterminants. Ces ossements appartiennent tous aux chats du Bengale. Et après, hop, on n'en trouve plus du tout. Tous les chats domestiques qu'on trouve en Chine sont des Felis catus issus directement du chat Felis sylvestris, donc du chat forestier, qui a remplacé partout le chat du Bengale, sans qu'il y ait apparemment d'échange génétique entre les deux espèces. Alors ça démontre combien les relations entre la Chine et l'Europe, et notamment l'Europe romaine de l'époque, était très intense pour que le chat suive partout les progrès de l'agriculture et qu'on retrouve cet animal sur toutes les routes marchandes. Le chat forestier est aujourd'hui donc à l'origine de tous les chats domestiques, mais il y a plusieurs sous-espèces qui sont venues matiner notre chat dès le début de l'agriculture. Par exemple, il y a Felis ornata qui vivait en Iran ou au Pakistan, Felis libica qui était le chat sauvage de Libye. Tous ces chats-là sont venus donner des gènes à notre Felis catus qui est donc issu de Felis sylvestris, le chat forestier, mais qui est déjà différent.
Quelle histoire ! Finalement, l'histoire du chat est totalement liée à l'invention de l'agriculture ?
Alors, on pense en effet que l'agriculture date à peu près de la même époque. On ne sait pas trop si c'est juste avant ou juste après, mais en gros, l'agriculture, c'est il y a 10 000 ans, le chat, c'est il y a 9 000 ans. Il y a quand même un laps de temps sans chat. Peut-être que le chat était présent dès 11 000, donc on ne sait pas trop, mais ça apparaît tout à fait associé. À 1 000 ans près, hein. Il faut bien voir que nous sommes ici dans des époques qui sont très longues, très très longues. Alors, il semble que le chat ait été utilisé dès le début de la construction des premiers greniers à grains. Là, on a la preuve qu'il y a des greniers et qu'il y a des chats, dans ce qu'on appelle des habitats collectifs.
Peut-être pour manger les souris.
C'est sans doute pour cela qu'il a été élevé. Mais c'est juste après le calcolithique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ère du cuivre, où on voit les premières traces d'une organisation sociale sédentaire chez les humains, avec l'apparition d'activités agricoles. Tout ça, ça date vraiment d'il y a 5000 ans. Entre 10 000 et 5000 ans, ça se met en place, mais c'est probablement 5000 ans. Mais il faut attendre encore 1000 à 2000 ans pour qu'on voit vraiment apparaître des agriculteurs. Les agriculteurs réels, c'est donc il y a environ 4000 à 3000 ans. Le chat, c'est peut-être 9000. Donc on voit que l'association avec l'agriculture n'est pas si évidente que ça.
Le calcolithique, c'est les humains qui ont élevé les menhirs ?
Ah oui, en effet. Alors c'est une période assez trouble, cette période où on voit des menhirs un peu partout. On voit cohabiter des groupes humains de chasseurs-cueilleurs, mais en même temps s'installent des groupes sédentaires. Ces groupes sédentaires ne pratiquent pas tous l'agriculture, mais certains pratiquent déjà la culture des céréales. Ce sont ces gens-là, ceux du néolithique tardif, qui vont créer des civilisations bizarres avec élévation de menhirs, de dolmens en Europe, et aussi sans doute avec l'apparition des premiers rapports marchands et de petits chefs qui se mettent en place. On voit ça apparaître assez clairement. C'est un moment difficile, comme en témoignent les fossiles, qui révèlent sans arrêt des fractures, des traces de lutte entre les clans, et déjà probablement des différences de classe sociale, puisque les enterrements ne se passent pas de la même manière que d'habitude. Ensuite, on va voir quelque chose qui va être un peu plus tranquille quand même, car ce qui va venir, c'est pire. Vers 3000 ans, avec l'agriculture qui s'impose un peu partout dans le monde, tout ça s'est associé avec des armes de métal, avec des armes de cuivre, des armes de bronze. Et donc, s'il y a des armes, c'est que les individus commencent à se taper dessus. Il s'agit de groupes humains qui sont quasi sédentaires, qui centralisent leurs récoltes, qui bâtissent des villages autour d'un grenier qui est encore collectif au sein du groupe. Mais en revanche, les batailles entre les groupes sont assez conséquentes. Et là, les chats les accompagnent, sans doute pour diminuer, comme tu le disais tout à l'heure, l'impact des petits rongeurs sur les réserves alimentaires. On va dire que le chat, il escorte les céréales en même temps que se modifie la vie sociale humaine. Ça qui est intéressant, c'est qu'on voit bien le lien qui existe entre la vie sociale qui va devenir une vie de petits chefs de groupes sociétaux, en même temps, on voit le chat apparaître. Alors qu'avant, il est peut-être là, mais il est beaucoup moins constant.
Notre matou entre alors toujours en course. Cette révolution de l'agriculture est donc déterminante pour la relation humain et chat.
Oui, alors donc on voit bien que le chat s'est installé progressivement, mais qu'au moment de l'agriculture, là, il est là, présent. Et si l'agriculture elle-même met un certain temps à s'installer, elle est aussi une période très critique. On sait qu'il y a beaucoup de variations démographiques à l'époque. Souvent, on avait attribué le fait qu'avec l'agriculture, il y avait une explosion humaine, avec une augmentation des naissances, mais il y a aussi énormément de mortalité, ce qui fait que c'est pas si gagné que ça. Peut-être que l'agriculture a été plus néfaste qu'on le croit, notamment avec des maladies transmises plus facilement en collectivité. Il y a l'irrégularité des récoltes et la sédentarité qui vont s'y poser des problèmes totalement nouveaux et des problèmes de santé. Et le chat va être adopté très rapidement à partir de là. On va le retrouver quasiment partout. Il est adopté et élevé, alors sans doute pour lutter contre les rongeurs indésirables qui vont être attirés par l'opulence des grains dans les villages. Opulence provisoire, mais opulence quand même. Peu à peu, les villages sont aussi confrontés à des pillards, à des bandes armées autour de petits chefs. Et cela, ça fait de cette partie de notre préhistoire un des moments les plus violents. C'est ce que l'on nomme pourtant l'émergence des civilisations. Voilà. Donc le chat est associé à des nouvelles civilisations, mais en train de dominer les humains, avec une organisation sociale de plus en plus hiérarchique, au fur et à mesure que les bandes armées et les pillards prennent le pas sur les agriculteurs. Et c'est eux qui vont façonner le pouvoir de leur royauté et qui se dénomment après des nobles. Ça sera à l'origine des empires comme la Mésopotamie, la Chine ou encore tout ce qui va être Égypte ancienne.
Thank you.
Voilà, Evanescence qui nous disait que le paradis était perdu à cette époque. Et pourtant, c'est du métal.
Tout à fait, avec le chat. Alors Thierry, voilà le chat entraîné avec les humains et leurs nouvelles pratiques de l'agriculture. Notre petit chat a donc été domestiqué il y a environ 3500 ans à partir du chat forestier de Libye.
Ah oui, c'est ça. Le chat domestique Felis catus provient donc totalement du chat forestier Felis silvestris, probablement originaire de Libye, Felis silvestris libicus. Mais ça...
Cela veut dire que les humains ont considéré que le chat possède toutes les qualités requises pour être le gardien des céréales.
Alors, le chat, c'est Felis catus. Catus, ça dérive du mot latin catere, qui veut dire guetter. Alors, on imagine bien l'attitude du chat qui guette. Alors, c'est vraiment un prédateur qui chasse à l'affût, qui va débusquer ses proies là où elles sont actives. Et pour cela, le chat dispose d'armes absolument inouïes. Il a notamment une ouïe très perçante. Il est capable de percevoir les sons jusqu'à une fréquence de 30 000 Hz, hein, c'est-à-dire presque 10 000 de plus que nous, beaucoup plus que moi. Il entend en stéréo, car ses oreilles peuvent s'orienter indépendamment l'une de l'autre, elles sont parfaitement mobiles, et ça le rend apte évidemment à discerner des ultrasons qui sont produits par les souris qui communiquent. Il peut même distinguer le bruit discret d'un rongeur qui se déplace ou qui ne fait que manger.
Alors effectivement, là...
Alors il peut ainsi localiser grâce au son la position exacte de la proie, donc il va s'approcher, y compris même si on ne le voit pas, et il pourra évidemment se saisir de cette proie rapidement. C'est un animal crépusculaire, plutôt actif le soir et plutôt actif le matin dans la demi-clarté du jour, mais il est même capable de voir la nuit en utilisant les très faibles lueurs de la nuit, car ses yeux disposent de cellules très performantes pour distinguer les mouvements, et donc même dans les pièces sombres, il est capable de voir. En revanche, il voit très mal les couleurs. En fait, évolutivement, il fallait choisir, hein. Soit être performant pour la nuit, ou alors distinguer les couleurs. Le rouge est par exemple pour lui une couleur totalement inconnue. Il possède un odorat 50 fois plus subtil que le nôtre, ce qui lui permet de suivre une trace olfactive que laissent les rongeurs quand ils passent.
Mais il existe une grande variété de races de chats. Ils ont tous toutes les mêmes qualités ?
Alors, ils sont pratiquement identiques. Il y a certains chats qui sont plus sourds que d'autres, d'autres qui ont un odorat plus faible en fonction de la sélection qui a été opérée. Mais en fait, il faut bien penser qu'il n'existe qu'une seule espèce de chat domestique, Felis catus, qui va se décliner en de nombreuses variétés. On a obtenu des chats poilus, des chats sans poils. Leur caractère va aussi différer, mais ça diffère plus entre individus qu'entre races. Actuellement, certains hybrides sont aussi élevés, notamment des hybrides à partir du chat du Bengale, afin de retrouver quelques caractères un peu particuliers, un peu plus sauvages.
Mais on n'obtient pas un gentil-minet domestique comme cela, je suppose. Comment ça se passe une domestication d'un animal sauvage ?
Alors, évidemment, on a toujours l'impression que l'évolution fait que les choses sont lentes et répétitives. Dans la réalité, pour qu'une mutation arrive, il faut très très peu de temps. Hein. Ça peut être parfaitement brusque. On sait que des espèces peuvent apparaître en 10 ans seulement. Là, en l'occurrence, on considère que tout a commencé dans les îles grecques, ou bien dans cette zone de transition entre l'Égypte et la Turquie, avec Israël, la Jordanie et la Syrie. Il y a à peu près 8500 ans avant notre ère. C'est dans ce croissant fertile qu'apparaissent les premières plantes cultivées, et notamment ces graminées particulières qu'on appelle les céréales. Ce sont les différents blés, les épeautres, les amidoniers, qui sont tous des triticums, et qui produisent un grain très riche en nutriments, qui va complètement modifier l'histoire humaine. Dès le début du néolithique, la sélection de ces céréales va conduire à une hybridation, avec des tétraploïdes de quelques espèces, qui vont être à l'origine de notre blé moderne. La culture du blé ne demande pas beaucoup d'aménagements particuliers et le travail du champ n'est pas trop difficile non plus que l'entretien. Le grain se conserve longtemps, il suffit de le garder au sec et il est aisé de produire de la farine avec des aliments et tous les aliments qui vont avec. Les instruments agricoles nécessaires sont aussi très faciles à élaborer. Le problème, c'est qu'en augmentant artificiellement la densité de cette graminée, l'agriculteur a attiré forcément à la convoitise des rongeurs qui sont associés et dont cette céréale constitue la nourriture essentielle.
Et c'est là qu'intervient le chat et sa domestication.
Presque, Siona, car il faut se rappeler que le blé et de nombreuses autres céréales qui sont des graminées auto-fertiles. Il n'y a donc pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour obtenir des grains qui sont très concentrés en sucre lent et qui vont constituer une très bonne réserve alimentaire. En outre, ces grains poussent sur des épis très fournis. Par conséquent, il est assez facile de sélectionner la plante pour ses qualités productives ou nutritionnelles. C'est ce qu'ont réalisé les humains très rapidement. Mais l'agriculteur rentre évidemment en compétition avec les autres plantes, et donc l'agriculture est une lutte contre la biodiversité, car pour mieux produire, il faut évidemment entretenir la seule graminée qu'on souhaite, en l'occurrence ici les sortes de blé.
Et c'est toujours le cas, l'agriculteur lutte contre les mauvaises herbes et doit éliminer les autres végétaux.
Tout à fait, Siona. En aménageant des champs de céréales, l'agriculteur va détruire la biodiversité de son champ, il diminue les graines du sol, il favorise son blé et il réduit au mieux les autres plantes. Mais en même temps qu'il permet à cette plante très riche de bien mûrir, cette concentration sur une seule espèce va entraîner évidemment la prolifération des petits rongeurs qui vont y voir une nourriture intéressante qui sera beaucoup moins dispersée. Donc ils vont se concentrer.
Oui, c'est ainsi que commence l'histoire du chat et de la souris.
Voilà, c'est ici que commence l'histoire du chat et de la souris. En effet, voilà venue la souris grise. Alors cette souris grise vivait déjà auprès des grands herbages, sauf qu'elle est devenue évidemment pour les humains l'ennemi du blé cultivé. Pensez donc, d'un seul coup cette plante est devenue plus riche, plus belle et en plus plus concentrée. Donc c'était évidemment intéressant. Dans une moindre mesure, il y a aussi d'autres espèces comme le mulot sylvestre, Apodemus sylvaticus, le campagnol des champs, les microtus, c'est différent, et puis un peu le rat sur mulot qui lui va évidemment plutôt profiter de nos greniers et le rat noir qui est capable de vivre dans nos greniers. Mais c'est la souris grise qui est vraiment l'espèce la plus inféodée aux céréales et donc elle est devenue petit à petit commensale de l'homme.
Commensale, ça signifie quoi ?
Alors commensale, ça veut dire compagnon de table. Ça veut dire effectivement.
C'est amusant, comment voilà. Une souris compagnon de table.
Ce sont des animaux qui vont parasiter nos réserves, donc ce sont des compagnons de table. Alors ça veut dire que la souris, elle accepte la présence de l'humain, ça signifie pas que l'humain, il accepte la présence de la souris. Ça, c'est une autre paire de manches. Et donc, évidemment, elle est capable d'être très tolérante envers les humains, elle a réduit sa crainte, elle est capable de tolérer un certain stress et elle a diminué ses hormones de stress en grande partie. Elle est donc visiteuse, capable de vivre avec nos aliments et avec nos restes, mais elle est aussi apte à résider avec nous, discrètement. La souris est crépusculaire et nocturne, elle peut donc profiter du blé en grand discrètement. Et du coup, les premiers agriculteurs, ils ont dû favoriser la présence de ceux qui pouvaient empêcher les souris d'être là, ou du moins qui étaient capables de disperser les populations de souris. Ce sont les chats qui se sont avérés le candidat le plus extraordinairement doué pour cela.
Donc, notre matou a été adopté, mais la domestication s'est finalement passée comment ?
Alors au début, la présence du chat devait être tolérée et même encouragée auprès des habitations humaines. On a vite compris que ce petit prédateur faisait disperser les rongeurs, voire même était capable d'en capturer. L'animal sauvage s'est donc familiarisé avec les agriculteurs, et ceux-ci ont sans doute très vite compris l'intérêt comme chasseurs. Donc ils ont apprivoisé le chat. Apprivoiser, ça veut dire qu'on accepte de le nourrir dans les périodes où il n'y a plus rien à manger, qu'on accepte de le tolérer et qu'on ne va pas le chasser. Le chat était donc entretenu auprès des maisons, nourri peu à peu et sans doute petit à petit logé avec les humains, notamment quand il y avait des portées, il était facile d'adopter des petits chats. Progressivement, à partir de chatons élevés directement par les humains, le processus de domestication a réellement commencé, c'est-à-dire qu'on a rendu petit à petit le chat totalement dépendant de l'humain. C'est ça la domestication. On considère que la domestication se déroule presque toujours à partir de l'adoption du juvénile, ce qui va modifier leur image parentale et qui va les rendre familiers avec leurs parents d'adoption. C'est ce qu'on appelle aussi le phénomène de l'empreinte biologique.
Oui, comme cela, on peut apprivoiser un animal sauvage en prenant la place de ses parents.
Voilà. Mais la domestication va entraîner peu à peu une prise en charge de plusieurs lignées d'animaux élevés sur plusieurs générations et petit à petit aussi leur sélection en fonction de la valeur recherchée. La domestication est donc différente de l'apprivoisement. L'apprivoisement, ça va garder le caractère sauvage de l'animal, alors que là, en l'élevant en plusieurs générations, on va générer quelque chose d'autre. On apprivoise en recrutant de nouveaux individus qui peuvent être prélevés dans la nature, alors que la domestication, au contraire, consiste à faire se reproduire l'animal dans des conditions de familiarisation avec l'humain, en bouleversant son régime alimentaire, son comportement, enfin tout un ensemble d'éléments, et en privilégiant des caractères donnés pour élaborer ce qu'on va appeler ensuite des races distinctes. Là, on voit que l'humain a donc directement influencé le devenir de l'espèce domestique en modifiant sa familiarisation, mais aussi sa génétique, en choisissant certains reproducteurs plutôt que d'autres, et en éliminant des animaux qui ne plaisaient pas. C'est ce qu'on appelle une sélection. Et comme les différents éleveurs peuvent être capables de sélectionner des caractères qui sont différents, on va voir apparaître des races différentes au sein d'une même espèce domestique. Ces races ne peuvent souvent plus redevenir tout à fait à l'état sauvage, car elles ont été transformées, je l'ai dit tout à l'heure, certaines ont perdu un peu d'odorat, un peu d'ouïe. Elles sont donc étroitement dépendantes de l'humain pour leur reproduction. Et puis, la domestication des plantes et des animaux, ça a accompagné les débuts d'agriculture et ça a été un facteur essentiel pour le développement des grandes civilisations avec le cheval, le mouton, la chèvre. On voit que l'animal peut, selon son état de domestication, plus ou moins être capable de vivre, entre guillemets, à l'état sauvage. Mais il sera suffisamment dépendant de l'humain pour revenir de temps en temps lui demander une gamelle ou pour devenir lui demander un gîte. Et bien entendu, le chat vient de là.
Et oui, un contrat qui se passe tacite finalement, mais le chien aussi a été domestiqué.
Alors oui, s'il y en a, c'est un autre contrat tacite, mais qui est beaucoup plus ancien. La domestication du chien remonte probablement à bien avant le néolithique, c'est-à-dire plusieurs millénaires avant le chat. L'ancêtre du chien, là aussi, a dû se rapprocher et s'est associé au groupe humain qu'il devait suivre. Mais là, ça s'est passé entre 100 000 et 150 000 ans, hein. C'est donc très 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 ancien. Il a eu un rôle d'alerte et d'assistant de chasse. On pense pas souvent que les premiers chiens sont des chiens de chasse, mais il est probable que le chien d'alerte, le chien de garde, ait aussi été très important dans un monde peuplé de loups, de prédateurs divers, et il fallait cacher la viande, cacher la nourriture, et c'était bien plus difficile. Donc il s'agissait au départ d'un mutualisme entre l'humain et le chien, et puis cette interaction s'est prolongée progressivement, elle a évolué vers une domestication. Alors, avec le chat, ça a été un peu différent, parce que le chat, comme disait Georges-Louis Buffon, c'est un domestique infidèle qu'on ne garde que par nécessité, c'est bien dit. Hein.
Oui, c'est joli.
L'humain lui a favorisé la présence du chat, il l'a introduit auprès de ses villages, sans doute aussi pour effrayer les souris, pour les chasser, mais aussi très vite, parce que le chat est devenu un amusement affectif. Le chat avait des prédispositions pour être apprécié des humains. Vous pensez, hein, il dort tout le temps, il est sympa, il vient sur vos genoux. C'est donc un prédateur redoutable, mais qui se cache sous les traits d'un animal extraordinairement sympathique et amical.
Hello, railroad. Is this a railroad? I want a one-way ticket down to Tennessee. I'm leaving immediately. Chattanooga, here I come. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Right on track 29. Boy, you can give me a shine. I can't afford to board a Chattanooga choo-choo. I've got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blow and egg to the bar, then you know the Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Woo-woo, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. In satin and lace, I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'm ever wrong. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Hey there, boy. Yes, 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 I'm a-coming back to Tennessee. Hey there, boy. I want a one-way ticket on the Chattanooga choo-choo train. Hey, pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo-choo-choo-choo? Right on track 29. My baby, I'm fine. Boy, you can give me a shine. Give me a very good shine. All dressed up in satin and lace. Oh, what a funny face.
I used to call funny face.
I used to call her just a funny face.
She's gonna cry until I tell her that I'm never wrong. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home.
Les Andrews Sisters avec Chattanooga choo-choo.
Nous revoilà sur 89.4 et sur Internet avec une radio associative pas comme les autres. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans maître, sans dieu et sans publicité. Et dans une émission pour vous, les aventuriers de l'esprit, science en liberté, tous les seconds lundis de chaque mois. Nous continuons aujourd'hui sur les qualités et les mythes autour du chat. Alors Thierry, nous voilà revenus sur la fantastique histoire du chat et tu nous disais que le chat avait des prédispositions pour être apprécié des humains.
Eh oui, Siona, le chat est donc une espèce issue du chat sauvage, Felis silvestris, du chat forestier, mais en compagnie des humains, il a très progressivement modifié son caractère.
Au début, ce sont surtout ses aptitudes à la chasse qui ont favorisé la domestication.
En fait, non. Le chat possède bien des qualités qui en font un excellent prédateur, mais ces qualités contredisent beaucoup la domestication. Car pour être un bon prédateur, la prédation doit se dérouler sans être perturbée par la présence de l'humain, qui quand même fait un peu peur aux proies et notamment aux souris. Donc il faut analyser des caractères qui ont facilité l'association du chat avec les humains d'une part, et d'autre part les caractères qui ont favorisé l'intérêt de cette association.
Voyons cela, donc le chat présente des habitudes de vie qui donnent des prédispositions à devenir un animal domestique.
Voilà, c'est tout à fait ça. Tout d'abord, le chat est considéré comme un animal solitaire et territorial, donc ça simplifie. Bien qu'il soit encore assez social, le chat peut vivre individuellement dans une famille humaine et donc rester à proximité du lieu qu'il a investi. Il apparaît souvent que le chat n'habite pas chez nous, mais que nous habitons chez lui, mais il est quand même très content de disposer du confort. Il est en effet très casanier, très sédentaire, et il s'empare très vite des lieux qu'il fréquente. Il peut aussi les partager avec d'autres chats, et donc constituer un petit groupe qui est souvent parfaitement huilé, parfaitement organisé.
C'est vrai que le chat ne paraît pas toujours très actif. Il est si sédentaire qu'il semble être toujours en train de dormir.
Ah ça, bien sûr. Le chat, c'est un dormeur invétéré. Il peut dormir jusqu'à 18 heures par jour. On exagère souvent, mais ça représente quand même 66% de son temps de vie. Cette habitude de dormir est le résultat de l'évolution du chat. Ce nombre d'heures de sommeil n'indique pas forcément qu'il est épuisé. Mais les chats traquent leur proie et dépensent beaucoup d'énergie dans cette activité. Comme ils chassent à l'affût, tous ses sens sont extraordinairement tendus. L'attention est toute tournée vers la plus faible distinction de sa proie. Il a donc besoin de beaucoup récupérer, et le sommeil constitue une des conditions de sa santé. Mais outre sa grande tension nerveuse, c'est aussi que les chats dorment peu profondément, donc ils sont aptes à se réveiller en quelques dixièmes de seconde. On l'a tous vu déjà, le chat qui se précipite d'un seul coup parce qu'il a entendu un petit claquement de quelque chose. Le sommeil profond est en fait plus réparateur. Il existe aussi, mais en général, le sommeil du chat est composé de phases qui sont assez longues, qui durent de 20 à 30 minutes. Ces phases représentent 9 à 12 heures de la totalité du sommeil. Ces premières phases sont régulièrement suivies de séquences d'ondes rapides de faible amplitude, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Le chat est en train de rêver. Le chat est d'ailleurs l'animal qui a le plus de phases de sommeil paradoxal au monde.
Oh, il doit rêver de souris ou de petites choses comme ça, mais en fait, outre le fait qu'il dorme beaucoup, et puis c'est aussi un animal très propre.
Alors ça, c'est un autre avantage. Le chat cache ses déjections autour de son abri. Donc il enterre ses fesses pour dissimuler sa présence et pour ne pas être encombré aussi dans ses refuges. Alors ce comportement associé à une toilette quotidienne a souvent été interprété comme une grande qualité de propreté. Alors, pourtant, le chat évolue dans un monde d'odeurs et laisse sur ses trajets des marquages d'urine, de crottes qui signalent sa présence à d'autres congénères. Mais comme sa sensibilité olfactive est très grande, il n'a pas besoin de laisser beaucoup de marques derrière lui. Alors évidemment, c'est pratique pour l'humain, car l'odeur est loin d'être agréable. Le pipi de chat excité par ses envies sexuelles, c'est le pire de toutes les odeurs pour l'odorat humain. Ouais.
De plus, le chat est plutôt actif la nuit.
Alors c'est un autre avantage, parce que comme il dorme le jour, évidemment, il ne va pas déranger les humains. Et la nuit, il devient actif au crépuscule, généralement jusqu'à l'aube. Et donc, il peut guetter les rongeurs en permettant aux humains de se reposer. Ce qui fait que ça fait un travail 24 heures sur 24. Dans la journée, les humains dérangent les rongeurs. La nuit, le chat les chasse. Alors on a vu, tous ces organes sensoriels ont évolué pour en faire un mode de prédation, un prédateur nocturne, dans le noir et dans la discrétion. Le chat est parfaitement équipé pour débusquer des proies la nuit à partir d'un mode de chasse à l'affût.
Mais pourquoi chasse-t-il s'il est nourri par les humains ?
Alors ça, c'est une autre qualité paradoxale qu'on trouve chez tous les prédateurs. Il s'agit de ce qu'on appelle la non-inhibition du comportement de mise à mort des proies. Non-inhibition de mise à mort des proies. Si la faim constitue la motivation pour aller à la chasse, le prédateur ne tue pas parce qu'il a faim. Il peut continuer à exercer une prédation même s'il n'a pas faim. En fait, la plupart des prédateurs ne peuvent pas s'arrêter de mettre instinctivement leur proie à mort si la proie est disponible. Le prédateur va donc tuer tout ce qui est possible sans connaître d'inhibition. Dans la réalité, il y a juste une petite frange des populations animales qui sont des proies potentielles, parce qu'il faut qu'elles soient un peu ralenties, un peu différentes au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais même lorsqu'il a mangé à satiété, le prédateur va rester apte à déloger à capturer et à tuer des proies du moment qu'elles sont donc accessibles. Il ne les consommera pas. C'est un comportement étonnant qui va permettre à ces animaux, par exemple le putois, de faire des réserves alimentaires et puis qui peuvent donner l'impression de faire des ravages. Par exemple, quand une fouine pénètre dans un poulailler, du coup, elle va tuer tout ce qui est disponible. Donc, comme les poules sont toutes là, disponibles et qu'elles paillent partout, elle risque de tout tuer, même si elle ne mangera pas tout. Du coup, c'est très pratique pour les humains parce qu'ils disposent d'un auxiliaire de chasse qu'ils peuvent nourrir et entretenir. Ça va conserver ses qualités de chasseur et il sera toujours apte à chasser des rongeurs, même s'il a beaucoup mangé.
Eh oui. Mais il est aussi un compagnon très agréable, il faut le reconnaître. D'ailleurs, les images de chatons sont parmi les plus regardées sur Internet comme images de tendresse.
Alors le chat est depuis la nuit des temps une source d'inspiration qui calme les humains et qui inspire la sympathie. C'est étonnant, parce que s'il est aussi image de la tendresse, le chat c'est aussi l'icône de la cruauté, l'icône du maléfice. Comment un animal aussi craquant peut-il avoir été un symbole du malheur? C'est difficile à comprendre. Le chat noir porte malheur, dit-on. Alors il a été divinisé par les Égyptiens, contradictoirement. C'est peut-être parce que leurs yeux réfléchissent la lumière de la nuit et qui symbolisent le pouvoir du dieu du soleil. Mais déjà chez les Égyptiens, le chat noir était assimilé à un diable. Ensuite, il est devenu une créature satanique, ne pas oublier qu'il a été brûlé par les curés du Moyen-Âge comme représentant de Satan. Le seul fait de posséder un chat noir pouvait même vous faire accuser de sorcellerie, c'est pas peu dire. Et de nombreux sévices cruels ont été infligés aux chats, car les humains savent parfaitement faire du mal aux animaux quand ils le veulent. Mais c'est toujours paradoxal, au Moyen-Âge, le chat noir n'était pas toujours néfaste, car le chat noir va aussi porter bonheur, notamment en mer sur les bateaux. Alors, cette idée a longtemps incité les Britanniques à enrôler des chats noirs à bord de leurs navires. Au XVIIIe et au XXe siècle, on trouve la preuve de la présence de chats parce qu'ils sont enregistrés sur les registres de bord.
Je ne sais plus qui disait « Les chiens vous regardent tous avec vénération, les chats vous toisent avec dédain ». Mais il y a eu beaucoup d'écrivains qui adoraient les chats, je pense à Colette, Brassens. Et puis, le chat ronronne et donne l'impression d'une incroyable sensualité.
Alors c'est en effet un animal très sensuel. Il pratique un marquage olfactif de ses éléments familiers et pour cela, il se frotte à nous. Ce qui nous donne l'impression, évidemment, d'une affection marquée. Alors si on est observateur, on se rendra compte qu'il se frotte aussi à un pied de chaise, à un pied de table, à un meuble.
Il casse le charme.
Voilà, et que finalement, cette sensualité est bien pour lui. Parce qu'il se frotte tout autant aux portes, aux pieds de table ou des murs, c'est parce que c'est un comportement qui est fait pour répandre son odeur. Nous, on la sent pas trop forte, cette odeur de son poil, ce qui fait qu'on la tolère totalement. Ce marquage est pour lui une façon de se familiariser dans son environnement. Il sait que ces choses-là font partie de son environnement, et ben vous aussi.
Et d'ailleurs, c'est important qu'il le fasse finalement aussi, pour normalement, un chat doit et censé marquer.
Ah oui, il a besoin de
territoire.
Se faire aux mônes, il a besoin de ces odeurs-là pour ne pas être inquiet, pour se sentir chez lui, pour se sentir tranquille. Mais il ne s'agit pas d'affection. De la même manière, le ronronnement. Alors c'est une vocalisation très étrange qu'on le retrouve chez beaucoup d'animaux. On les retrouve chez les ours, les genettes, les félins. Siona, est-ce que tu sais quelle est la ressemblance entre un lapin et un chat ?
Non, ils ronronnent.
Eh oui, alors c'est pas seulement culinaire, le lapin comme la genette et le chat ronronnent. On voit que c'est un son très ancien qui existerait dès l'origine de la formation de nombre de mammifères, avant même la constitution des carnivores, et évidemment chez les premiers ancêtres du groupe qui va évoluer vers les carnivores. Alors c'est un son de basse fréquence, autour de 20 Hz à peu près, qui provient d'une vibration des cordes vocales généralement liées aux interactions entre la mère et les jeunes. Oui, l'enregistrement n'est pas terrible, il est un peu puissant, mais il nous donne un peu cette idée de répétition qu'on entend, une vibration des cordes vocales. C'est un premier contact que la mère a avec ses petits, avec sa portée, lors de la tétée. Le ronronnement peut être produit dans des situations de plaisir. C'est pour ça que nous, on s'y intéresse souvent, que les humains.
Oui, un effet calmant même.
C'est un effet calmant, déstressant, tout à fait. Mmh. Mais le problème, c'est qu'il est aussi produit dans des moments de souffrance, lorsque l'animal est blessé.
D'accord.
Ou même lorsqu'il est mourant. Alors, par exemple, Gustav Peter a dit que le ronronnement était l'équivalent du sourire chez l'humain. Mais le ronronnement n'est pas toujours associé à une émotion. ou à un état particulier. Des études vétérinaires ont montré que les sons de basse fréquence pouvaient avoir un effet bénéfique et curatif même sur les os, les muscles et les tendons, ce qui suggère que le ronronnement pourrait être parfaitement un auto-apaisement quand l'animal sent qu'il a quelques tensions particulières sur ces éléments-là, surtout chez les chats qui courent peu, qui ont moins d'activité, d'activité que les autres. D'un point de vue éthologique, il semble aussi que le chat vocalise pour exprimer une forme de sollicitation de dépendance. Hein, ça fait partie de ces chatons qui vont demander un peu de la nourriture. Il va donc communiquer un apaisement envers l'autre, ce qui va permettre de désamorcer les conflits potentiels. Je ronronne, donc tu ne vas pas m'attaquer. C'est particulier. C'est un peu comparable au caquettement qu'on retrouve chez les furets, chez la plupart des mustélidés, voilà, qui est fait pour apaiser au départ la partenaire sexuelle ou la portée et évacuer le stress d'une rencontre qui est toujours potentiellement dangereuse.
Donc, le chat ronronne pour apaiser notre relation avec lui.
Oui, ce qui prouve que c'est finalement toujours un peu conflictuel. D'ailleurs, on sait bien que entre le chat et l'humain, le conflit n'est jamais très loin et que même lorsqu'il y a une caresse, le coup de griffe n'est jamais très lointain. Il faut bien comprendre que le petit cerveau du chat analyse son environnement dont vous faites partie d'une manière particulière. Il sait bien que vous êtes vivant, mais il n'a pas forcément d'autres relations à avoir avec vous qu'une relation, entre guillemets, on va dire, amicale.
Un petit peu opportuniste aussi.
Voilà pourquoi le ronronnement est une fonction autosensible. L'apaisement, il est fait pour les deux partenaires de la relation, pour lui-même, évidemment pour l'autre, en espérant que l'autre ne va pas l'agresser. Alors le chat domestique est, par rapport aux autres félins, l'animal qui est le plus ronronneur. Sans doute qu'au contact de l'homme, l'animal a en quelque sorte régressé pour développer des comportements plus infantiles qui vont évidemment davantage plaire à l'humain. Mais c'est aussi parce que cette vocalisation sociale a pu être favorisée par la relation permanente avec les humains, alors que le miaulement, lui, peut apparaître comme un élément plus agressif. Hein. Des fois, c'est très irritant à chaque miaule.
Ou d'alerte quand il quémande à manger.
Tout à fait. Alors que le ronronnement, c'est une vocalisation qui montre en quelque sorte que le chat apprécie notre présence puisqu'il nous rassure et qu'il rassure nos rapports.
Chat persan, si puissant que dans son, que dans son, que dans son, son harem, toutes les femmes lui disaient chat, 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 comme on t'aime, mais malgré c'est mimi, c'est mimi, c'est milliard, le pacha, chat, 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 avait bien le cafard des pépés, des pétroles, il était ceinturé, car son rêve. Devant son bâtard, son palais en toute saison. Chaque fois qu'il creux, qu'il creusait
des trous-trous, pour trous-trous, pour trous-trous, laïdou.
Pour trouver un fifi, filet d'eau, du pépé, du pétrole, jaillissait aussitôt.
Et les sous, les sous-sous,
les sourciers, les sorciers voulaient tous
des
mimi, sillonner.
Et le papou, le papa, le pacha, cha cha cha,
languissait. Car son
rêve,
c'était quoi le plus
évasant
devant son bâton, son palais en toute saison. On signala à deux pas une rivière d'eau claire. Le pacha il courut sur le champ, mais revint fort déçu, n'ayant vu plus qu'une rivière de diamants. D'un coup de dé, il joua au sansan, au sansi, aux anglais. C'est pépé, c'est mimi, son papa, c'est sous-sous, qu'il pépé, qu'il perdit sur le coup. Alors tout compte fait, il s'installa chez nous, car chez nous, pour ce qui est du gaga, du garçon, on serait plutôt gaga, trop
plastique. C'est un chat, votre chat, votre chat. Le chat s'appelle son pisson. Il me tue, il faisait des toutous. Pour toucher un pipi,
Il me sait pas d'eau.
C'était Chacha Persan par les frères Jacques. Alors Thierry, une vraie question se pose. Les chats sont-ils affectueux ? Tout le monde est fasciné par la tendresse des petits chats, mais eux. Ils aiment les personnes qui les nourrissent.
Le chat est un animal donc très sensuel, on l'a vu. Il aime à se frotter à son environnement quotidien, quasiment tous les jours, pour se familiariser avec son espace. La plupart des recherches ont révélé que les chats n'étaient pas vraiment attachés aux humains qui les gardent. En tout cas, s'ils sont attachés, ils sont beaucoup moins attachés que les chiens qui, eux, sont très très dépendants de cette relation quasi affective. On peut dire que le chat n'aime pas son soigneur, et bien qu'il puisse quand même lui garder un certain attachement. Une forme de reconnaissance qui peut être relativement précaire. On a testé, on a fait la comparaison entre les chiens et les chats et on s'est rendu compte en effet que le chat, il pouvait très bien vivre, tolérer une autre personne dans son environnement que l'humain qu'il connaît d'habitude.
Du moment qu'il est couvert, gîte...
Voilà, qu'il a le gîte. On le sait tous, quand on laisse son chat pendant quelques jours et que c'est quelqu'un d'autre qui vient le nourrir ou s'en occuper, ça ne pose pas en général de problème majeur au chat et en fait, il est bien content de vous retrouver, mais sans plus. En même temps, ça s'est lié à une qualité du chat qui est en fait son indépendance de caractère, cette qualité qu'on apprécie tellement chez lui. Et même ceux qui jouent avec les chats doivent s'attendre de temps en temps à recevoir un coup de griffe, parce qu'il a toujours une tension en lui, et donc il peut jouer à un moment donné et d'un seul coup se relâcher.
Il n'arrive pas à contrôler en fait cette tension.
On savait déjà que le chat était autonome et qu'il était plutôt farouche, alors que le chien, lui, il est attaché à son propriétaire. Il y a une étude de l'université de Washington, menée par Monsieur Warren, qui suggère que cette différence est d'origine génétique. Le chat serait resté près des humains seulement par intérêt, et non pas par affection, alors que le chien, c'est l'inverse. De même, lorsqu'on compare les réactions des chiens et des chats à des situations d'abandon, eh bien les chats se montrent parfaitement aptes à survivre, sans s'occuper de rechercher leur maître, tandis que les chiens vont rester très fidèles, très dépendants et très méfiants sur d'autres maîtres.
Enfin, de manière générale, parce que j'ai entendu parler d'un chat qui avait fait des kilomètres pour retourner... Ah oui, à son domicile.
À son domicile, dans son espace et dans son lieu. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on considère que le chien va avoir un attachement à une personne donnée, à travers ses odeurs, ou du moins un groupe de personnes données, alors que le chat a beaucoup plus d'attachement à son espace, ce qui d'ailleurs est parfaitement visible à travers ses marquages d'habitude. Donc on peut dire que si les chiens ont des maîtres, les chats, eux, ont des serviteurs.
Dans cette émission spéciale sur les chats, nous devons maintenant aborder les deux grands problèmes que le chat pose au monde. Adorable, mais notre matou est d'abord un prédateur.
Eh oui, il y a deux grandes questions que le chat soulève, et chacune de ces questions trouve son origine dans le comportement prédateur indépendant du chat. Tout d'abord, le premier problème soulevé est totalement lié à ses incroyables qualités. Le second problème, lui, provient de la domestication.
Oui, mais Thierry, depuis des millénaires que le chat est domestiqué, en quoi ces questions font de notre ami félin un problème ? Et est-ce des graves problèmes ?
Eh bien, Siona, ces questions sont en effet majeures, car avec le temps, elles méritent au moins d'être posées. Selon la réponse qu'on va trouver, l'histoire du chat et de l'humain pourrait d'ailleurs en être totalement modifiée. Premièrement donc, le chat est un prédateur hors pair. C'est précisément ces ahurissantes performances de chasseurs qui ont entraîné sa domestication par l'humain, mais dans un milieu désertique, dans un milieu où la faune était très dispersée. Notre matou dispose d'un arsenal terrible pour s'en prendre aux petits rongeurs. Il est armé de griffes rétractiles, toujours très aiguisées, ses pattes sont munies de coussinets qui rendent ses pas inaudibles, sa dentition est acérée avec des crocs pour tuer, des carnassières pour découper les chairs, il a une vue perçante, même dans la faible clarté de la nuit, il a des vibrisses qui favorisent son toucher à distance, et il sait interpréter des odeurs extraordinairement subtiles, sans compter qu'il entend presque tout. Il peut s'aventurer sur les arbres, sauter à de belles hauteurs, et sait toujours retomber sur ses pattes. Le chat est donc un prédateur biologiquement parmi les mieux adaptés du monde.
En effet, le chat est un excellent chasseur et il semble entièrement fait pour cela. Pourtant, il ne capture que des petites proies comme la souris.
Oui, l'évolution du chat en a fait une machine à tuer des proies. Mais il s'est spécialisé sur des petits rongeurs, des souris, des mulots et des campagnols. En fait, son régime alimentaire est beaucoup plus diversifié qu'on ne le croit et il varie au cours des saisons, comme chez la majorité des prédateurs. Le chat, il est apte à tuer des oiseaux de petite taille, mais jusqu'à la taille d'une poule, et des mammifères jusqu'à la taille d'un petit lapin. Il se méfie des serpents, mais il est capable de tuer des centaines de lézards, des centaines d'insectes ou de papillons, par exemple.
Mais à l'état domestique, il est moins prédateur qu'à l'état sauvage.
Oui et non. Car souvenez-vous, l'évolution a conduit à la non-inhibition du comportement de mise à mort des proies. Le chat peut donc tuer sans avoir faim. Et donc, il est capable de tuer, même s'il a finalement un corps parfaitement apte, alors que les autres prédateurs vont eux avoir faim, être moins aptes à percevoir les choses, davantage s'énerver dans la nature. Les travaux scientifiques qui ont suivi des chats à raies, c'est-à-dire des chats domestiques retournés à l'état sauvage, qui ne sont eux ni soignés ni nourris par l'humain, démontrent qu'un chat à raies va consommer de 150 à 200 grammes de proie à peu près par jour, soit 3 à 4 mulots, 4 ou 5 moineaux en plus. Mais il est capable de tuer aussi des belettes, des écureuils, des taupes, des petits lapins et une très très grande quantité d'oiseaux. On sait qu'il y a plus de 50 espèces qui sont prédatées régulièrement en Europe occidentale. Ils capturent aussi des proies rares comme les chauves-souris, les musaraignes insectivores, et souvent ils dédaignent de les manger parce que comme ce sont des animaux qui possèdent des glandes odorantes sur leurs flancs, elles sont relativement désagréables au goût. Quant au chat domestique, son impact est légèrement plus faible, avec 2 à 3 proies par jour à peu près, comme cela a été mesuré dans un village suisse en 2007 à Finterzee, avec près de 200 chats toutefois. Son instinct de tueur entraîne également une très forte prédation annuelle. Alors cette prédation annuelle, ça s'élève à peu près à 1000 petits animaux qui sont tués par an
chat.
Y compris sur des espèces rares ou des espèces en danger, hein, des grenouilles, des lézards, des musaraignes, des hermines.
Et pourtant il est nourri, c'est fou.
Et quantité de petits oiseaux qui vont se nourrir au sol ou qui nichent à terre, comme par exemple la grive ou le pipite.
Oui, on sait d'ailleurs que les chasseurs tuent les chats errants, soi-disant pour protéger leur petit gibier. Cette prédation du chat est-elle anecdotique ou bien est-ce grave pour la biodiversité ?
Alors quand on mesure le nombre d'animaux qui sont tués, sans parler du nombre d'espèces, hein, mais le nombre d'individus qui sont tués dans une population animale, on s'aperçoit que c'est un impact qui est très très important et qui est largement sous-estimé par les gens, au point de représenter dans certaines régions un danger très grave pour la biodiversité. La quantité de belettes tuées par exemple par les chats est nettement supérieure à ce que les belettes peuvent supporter. La plupart des gens estiment que leur chat à eux n'est pas en cause. Mon chat, il est innocent.
Mais oui, ça voilà. Ramène une petite proie.
Puis il tue pas beaucoup. Ou alors il tue une souris de temps en temps. Oui, c'est complètement méconnaître son propre chat. Une étude américaine qui a étudié les cadavres de proies qui sont découverts montre que la moitié des cadavres sont abandonnés dans la nature. Il y a donc que la moitié des proies qui sont ramenées à la maison. Mais c'est surtout le nombre de chats qui va entraîner cette hécatombe véritable, surtout quand ils sortent jour et nuit. C'est un prédateur souvent bien nourri, en bonne santé. Il est donc capable de tuer aisément et bien plus aisément, par exemple, qu'une fouine. Une fouine, ça pèse 1,5 kg, donc c'est deux fois plus petit. Un chat, ça pèse 3 kg. La fouine, à la fin, elle est embêtée. Dès qu'elle voit un humain, elle est obligée de s'échapper, alors que le chat, lui, va passer sans aucun problème au milieu de toutes ces odeurs. Imaginez, sur 10 km² de petits hameaux, il y a entre 40 et 200 chats en moyenne,
oui,
pour moins d'une fouine et probablement pas plus de 2 à 3 belettes. Il faut imaginer même 2 oiseaux par jour en moyenne, ça veut dire que c'est entre 80 et 400 oiseaux qui sont tués tous les jours, tous les 10 km carrés.
C'est pas négligeable.
Ah bah oui, 400 oiseaux tués tous les 10 km carrés, c'est quand même beaucoup. Et deux fois plus qu'en ville en plus, quand c'est à la campagne. Hein. On pense que le chat à la campagne tue moins qu'en ville, mais c'est pas mieux. Que le chat tue moins en ville qu'à la campagne, ouais. Mais il tue deux fois plus en ville qu'à la campagne. Un oiseau va se développer 2 à 3 nichés, 3 à 4 oisillons, et un mulot peut obtenir à peu près 20 petits par an, entre 20 et 24 petits par an. Donc le chat, il est largement au-dessus de la capacité de renouveler les populations de mulots ou d'oiseaux. Surtout que ce sont des animaux, quand ce sont des animaux rares, comme par exemple certains oiseaux, les musaraignes, les chauves-souris, il existe au moins 3 milliards de chats domestiques dans le monde. 3 milliards de chats domestiques.
Et oui.
Pour 200 visons d'Europe au total en France. Hein.
On oui, voit un peu ça. En fait, il faudrait comparer tous ces chiffres-là et on voit bien que la prédation est importante. On a une idée de ce que représente la prédation du chat dans le monde ?
Alors oui, c'est assez imposant parce qu'en fait, il y a plus de 8 millions de chats domestiques, par exemple en Grande-Bretagne. On recense probablement peut-être plus. Hein. Et le chat domestique, il est responsable de la tuerie de 52 à 63 millions de mammifères par an,
ah oui.
25 à 29 millions d'oiseaux et 4 à 6 millions de reptiles et d'amphibiens, chats tous les ans. Donc on voit que c'est absolument considérable. Et tout ça, c'est sans compter les millions de chats errants, que
problème,
là, on ne compte
c'est
pas.
C'est la pression de plusieurs chats dans un même endroit.
Car si on peut compter les chats domestiques, puisqu'on peut savoir quels sont les foyers où ils sont, tous les chats errants qu'on ne voit quasiment pas, là, c'est évidemment impossible de les compter. Alors, il y a une étude américaine qui a été publiée récemment dans Nature en 2013, où les auteurs américains, là, du coup, pas anglais, ont réussi à mesurer l'impact additionnel des chats domestiques. Et eux, ils arrivent non pas à des millions, mais à des milliards d'oiseaux tués tous les ans. Aux États-Unis, le chiffre exact atteindrait 3,7 milliards d'oiseaux massacrés tous les ans et on dépasserait probablement les 6 à 7 milliards de mammifères. Les petits mammifères, l'impact pourrait s'avérer même beaucoup plus dramatique puisqu'on pense parfois que ça peut dépasser les 20 milliards d'animaux tués par les chats, 20 milliards d'animaux tous les ans. Tous les ans, hein. Le phénomène s'avère d'autant plus sérieux que, contrairement aux prédateurs sauvages qui, eux, vont dépendre de la densité de leurs proies, puisqu'ils ne peuvent pas tuer plus que nécessaire, hein, une fois qu'ils ont tué toutes les proies accessibles,
accessibles pour eux, leur
ils sont obligés d'arrêter, puis ils ont peur de l'humain, ils ne peuvent pas aller partout, il y a plein d'espaces non disponibles pour les prédateurs sauvages. Les chats domestiques, eux, reçoivent tout ce qu'il faut pour bien manger, de la nourriture,
et
ils peuvent évidemment...
Santé.
Voilà,
pouvoir
ils ont l'espace, l'abri. Ce qui signifie que les chats ne dépendent pas du nombre de proies disponibles. Ils peuvent parfaitement survivre même s'ils ne mangent pas. Une fouine, si elle se reproduit trop, eh bien, il n'y aura plus assez de proies pour nourrir ses petits. Donc, elle va mourir, forcément. Elle n'est plus capable de chasser. Le chat, lui, s'il n'a plus de proies, ben, ce n'est pas très grave. Il a sa pâtée qui arrive tous les jours et son petit lait le matin. Voilà. Donc, l'équilibre habituel entre un prédateur et ses proies est ici complètement falsifié, hein, complètement différent de ce qu'on pourrait retrouver ailleurs. Donc, alors, on a souvent cru, et parce que ça nous intéressait aussi, hein, que les dégâts causés par ces petits chats ne représentaient qu'une part minuscule de dégâts causés à la vie sauvage, parce qu'on s'intéresse plus, évidemment, à son rôle pour tuer nos mulots qui sont dans notre grenier ou nos souris qui sont dans notre mesure à grains, quoiqu'on n'ait pas beaucoup d'endroits à grains chez nous, c'est comme ça. Or, tout ça, c'est faux. Tous les scientifiques, toutes les études scientifiques nous montrent que ce n'est pas du tout vrai. Même des pertes, d'ailleurs, très très faibles, peuvent occasionner un déclin significatif des espèces. Pensez, par exemple, à nos 200 visons d'Europe présent, chaque portée de vison d'Europe est susceptible d'être tuée par un chat. Et donc, tuée par un chat, ça, chacune de ces portées de putois, de vison ou d'autres espèces, peuvent évidemment complètement diminuer. On avait nous-mêmes assisté à une portée de putois, pardon, qui a ainsi été complètement massacrée par un chat errant à un moment donné. Et ce n'est pas quelque chose de rare, au contraire, c'est même quelque chose de très très courant. Même si notre petit chat est un animal, ma foi, très sympathique par d'autres côtés.
Jetzt liegt es bei dir, dich um sie zu kümmern, wer weiß, vielleicht schnurrt sie dafür. Sie kommt und sie geht, wann immer sie will. Sie regelt sich in deinen Laken aus weichen Flanell. Sie spielt mit der Beute, zieht nie mit der Meute, sie kuscht nicht. Sie zählt deine Mäuse, sie mordet sie leise und gründlich. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern, das weiß sie ganz genau, miau. Vom Kopf, aber nie aus der Hand. Willst du sie dir greifen, faucht sie, rühr mich nicht an. Hast du absolut keine Zeit für sie, schleicht sie sich an. Sie fällt auf die Pfoten, sie spielt nicht nach Noten, sie sträubt sich. Du kannst sie nicht führen und auch nicht dressieren, sie spurt nicht. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern. Das weiß sie ganz genau. Miau. spielt mit der Beute, zieht nie mit der Meute, sie kuscht nicht. Sie zählt deine Mäuse, sie mordet sie leise und gründlich. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern. Das weiß sie ganz genau. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern. Das weiß sie ganz genau. Mehr.
Les déambulations du chat par Annette Louisanne dit Katz.
Vous êtes, nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité. Et dans une émission faite pour les cortiques et du bulbe, science en liberté. Dans cette émission, Thierry, tu nous as signalé combien la présence de notre chat domestique avait un impact important sur la faune.
Oui, on peut mesurer qu'un chat domestique qui sort 4 à 6 heures par jour tue environ entre 600 et 1200 petits vertébrés par an. Alors c'est un peu moins pour un chat à raie qui va tuer lui qu'environ 800 proies. Le chat domestique qui vit à la maison est donc plus mortel que le chat à raie lui-même.
Oui, en fait, alors on sous-estime toute la puissance du chasseur, de notre petit matou, mais sa présence a-t-elle entraîné de vrais problèmes connus et mesurés sur des espèces rares ?
Oui, en Nouvelle-Zélande, on connaît par exemple l'histoire d'un chat qui s'appelait Tibbs, le chat qui avait été emporté sur l'île Stephens par le gardien et qui a exterminé toute une espèce, le xénic, oui, une sorte de petit troglodyte, le xénic, une espèce endémique de cette île. Il y a une synthèse internationale qui a été publiée aussi en 2011 dans la revue Global Change Biology. On a estimé l'impact des chats sur les populations de vertébrés et il a été évalué à plus de 120 îles sur lesquelles le chat aurait contribué à 33 des 238 extinctions globales d'oiseaux, c'est-à-dire à plus de 10%, c'est à cause uniquement du chat. Du global des extinctions d'oiseaux, de mammifères ou même de reptiles qui étaient enregistrés par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et le chat menacerait la survie actuelle de 123 espèces d'oiseaux, de 27 espèces de mammifères et de 25 espèces de reptiles. Sans compter la concurrence que les chats domestiques exercent sur la faune sauvage. Un seul chat mange 10 fois plus qu'une belette et 2 fois plus qu'une fouine. Le chat prélève des proies qu'il enlève aux hiboux, aux chouettes, aux belettes, aux putois, aux fouines par exemple, mais aussi aux renards ou aux hérons. Et beaucoup d'autres espèces menaçant toutes les interrelations qui peuvent exister entre interrelations subtiles et fragiles entre les prédateurs et les proies.
Et du coup, en plus, ces espèces sauvages peuvent se rabattre sur des espèces
d'autres espèces domestiques puisqu'elles n'ont plus rien à manger.
Donc
c'est un cercle vicieux. D'autant que ça s'est terriblement développé depuis les années 50 où le nombre de chats domestiques a décuplé alors que le nombre de souris, lui, a diminué. On a beaucoup moins de souris parce qu'on a beaucoup moins de blé chez nous, beaucoup moins d'ennuis. La plupart du temps, on n'a même pas de souris ou de rats chez nous. Et donc, nombreux sont ceux qui vont essayer de favoriser la biodiversité de leur jardin. Mais on ne peut pas, puisqu'on ne peut pas empêcher les chats du voisin de venir chasser dans notre propre jardin et donc de détruire même la faune si on essaie de la préserver. Les lézards et les oiseaux, ils subissent généralement toute la prédation. Et souvent, les gens ne la mesurent pas puisque ça ne se passe pas chez eux.
Eh oui, ce n'est pas simple. Mais alors, que peut-on faire ? C'est une espèce adorable quand même, ce chat.
Alors, il y a évidemment des petites choses qu'on peut faire, comme par exemple essayer de réduire ses capacités à chasser la nuit en lui mettant par exemple une petite clochette. Mais la seule solution, ça serait de réduire les populations de chats. N'offrez jamais de chats. Ne jamais faire se reproduire des chats et n'avoir que des chats stérilisés. Il faut réduire la population de chats. D'autre part, pour réduire leur impact sur la petite faune sauvage, il faut les empêcher de chasser. Ne pas les sortir et surtout ne jamais les sortir la nuit. Bref, il faut rendre le chat moins nombreux, moins chasseur. Mais évidemment, ça veut dire que ça conduit à un autre problème. Car le chat est un prédateur qui a été choisi et domestiqué pour cette aptitude à tuer. Ce n'est donc pas logique de lui en vouloir en tant que tel s'il s'avère justement un prédateur efficace.
Eh oui, ce n'est pas
simple. Le problème est donc un tout petit peu ailleurs et il va falloir qu'on y réfléchisse.
Oui, car empêcher un prédateur de prédater, ce n'est pas naturel.
En effet, le chat a évolué pour devenir ce merveilleux prédateur évolutivement fantastique, un tueur d'oiseaux et de rongeurs. Il sait attraper des oiseaux qui s'envolent, déloger des rongeurs qui courent sous les herbes, mais voilà. La domestication a totalement changé la donne, car le chat n'est plus un prédateur naturel, c'est un tueur auxiliaire des activités humaines.
Un tueur auxiliaire, mais le chat est resté naturel, qu'est-ce qui a changé ?
Eh bien, s'il y en a, avec la domestication, tout a changé. On a d'abord exercé une immense modification de l'aire de répartition naturelle du chat. Il y en a partout dans le monde. Le chat est présent même dans des habitats qu'il n'aurait jamais pu coloniser. La domestication a changé plein d'autres choses. À chaque fois, cela accroît l'impact sur la biodiversité. Par exemple, la densité des chats est énorme. Jamais des chats sauvages peuvent vivre avec une telle densité, de plus de 200 chats à l'hectare. Dans les villes, les populations, la surpopulation est encore aggravée. Et évidemment, tout ça suppose qu'il y ait toujours ces fameux prélèvements de proies disponibles. Car n'oublions pas qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, les souris, les musaraignes, les oiseaux, les chauves-souris sont une part indispensable de la faune sauvage. Sont une part indispensable de la biodiversité. Sans les campagnols, les chouettes ne peuvent pas être nourries. Sans les mulots, pas de hibou, pas d'autres belettes. Le chat, il n'est pas heureux avec les humains, car sa vie a été totalement modifiée.
Pourtant, les chats semblent bien nourris, contents de vivre près des humains. J'ai l'impression que tout le monde pense que le chat est heureux, voire qu'il a une vie, une belle vie, qui dort, joue, si souvent, non ?
Oui, effectivement, voir le chat dormir, ça donne une impression fallacieuse de bonheur. Mais si le chat joue, c'est parce qu'il s'ennuie. Un chat sauvage, un chat forestier ne joue presque pas. Ensuite, s'il joue, c'est parce qu'il a été infantilisé. Il a été gardé à une situation infantile. Or, être infantile, c'est pas être un adulte normal, si vous voulez. Le chat reste à la maison comme un animal domestique, réduit à l'état infantile, et souvent il fait l'objet de manipulations des adultes ou des enfants. On le touche, on le tripote, ce qui n'est pas normal non plus pour un prédateur. Le chat subit d'ailleurs tout ça sans du tout le comprendre. C'est pour ça que son coup de patte n'est jamais très loin. Car la domestication a changé beaucoup de choses dans sa vie sociale. Il ne rencontre plus les autres chats, ou du moins il les rencontre d'une manière différente. Il rencontre des chats qu'il ne veut pas forcément rencontrer, des chats qu'on lui impose, les chats du quartier ou le chat avec qui on veut qu'il vive. Donc son système social, pourtant théoriquement indirect. Il est isolé, incapable de sortir, son univers actuel est peuplé de dangers inédits, de portes qui se ferment, de placards, de voitures, de fils électriques. Nombre de chats sont en plus euthanasiés parce qu'ils sont très souvent abandonnés. Toutes les SPA du monde en abattent des milliers tous les ans. Mais surtout,
et c'est triste en plus.
La domestication a changé radicalement sa vie naturelle et sa vie sexuelle. Les humains choisissent avec qui le chat peut ou non se reproduire. On va créer des races qu'on va stabiliser en obligeant à des relations sexuelles strictes. Et pour gérer la surpopulation des chats, on est obligé de stériliser les femelles ou de castrer les mâles. Tout ça, c'est évidemment pas du tout naturel. Donc dire que le chat est heureux, on voit bien que non. Il est une vie qui est au service des activités humaines et il en paye un prix très fort. Il lui paye notamment le prix le plus lourd en lui sacrifiant totalement sa vie sexuelle.
Pourtant, le film Le chat avec Gabin et Signoret a montré l'importance du lien entre les humains et les chats. Les gens qui ont des chats aiment bien leurs animaux et généralement les soignent le mieux qu'ils peuvent.
Ah oui, s'il y en a, ça je n'en doute pas une seconde. Les gens aiment les animaux, mais cet amour des animaux, s'il a beau être bien intentionné, n'est pas forcément bien fait. La plupart des propriétaires de chats pensent que leur chat est heureux parce qu'il ne bouge pas, mais c'est pas ça être heureux pour un chat. Et si les propriétaires veulent bien faire, ce n'est pas pour cela qu'ils le font bien. On ne peut pas bien faire avec des animaux domestiques. La vie d'un animal domestique n'est pas naturelle. Il ne vit pas pour lui, puisqu'il vit avec son propriétaire et avec les obligations que son propriétaire exige. Le chat domestique est un intermédiaire sur lequel on va projeter ses peurs, ses soucis, ses interrogations, parfois même ses colères, et à qui on demande une relation affective. C'est vrai que le chat fait partie de la famille, qu'il est familier, et souvent que la disparition du chat, ben c'est comme ça que les enfants font la première expérience de la mort et qu'il touche beaucoup les gens. Le chat sert d'assurance affective, mais c'est pas parce qu'il fournit un salaire affectif que réellement il est lui-même heureux. Bien entendu, on tait tous les problèmes inouïs que pose la présence du chat à nos côtés, son impact sur la biodiversité, sur les bactéries qui nous entourent, sans compter bien sûr l'industrialisation capitaliste qui fabrique de la nourriture pour chats, et ce sont des milliards qui sont en jeu.
Mais oui. Donc on va se quitter, on va quitter le matou et nous, il ne faut plus avoir de chat.
Oui, il faut rappeler, le chat il n'y est pour rien en lui-même. Mais la domestication qui valait peut-être le coup à l'époque du début de l'agriculture parce qu'on avait plein de grains et qui part d'une bonne intention, hein, enfin en tout cas plus ou moins bonne, a entraîné des conséquences qui sont extraordinairement difficiles à gérer de nos jours.
Mais alors quel choix ? Finalement garder quand même le chat, en avoir moins ?
Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'arrêter d'avoir des animaux domestiques. N'oublions pas qu'avec un animal domestique, on fait souffrir l'animal pour notre propre plaisir et on n'offre absolument rien de plus à la nature, à part le salaire affectif que lui nous offre et qu'on l'exploite. Il n'a vraiment... Ce n'est pas sa vie. On tue sa vie, on tue sa sexualité, on empêche de vivre. Il faut arrêter d'avoir des animaux domestiques. C'est le seul choix humain qui puisse exister. Réduire ses périodes de chasse, l'empêcher d'aller vivre, est-ce que c'est mieux ?
Oui, mais en même temps, découvrir les animaux, c'est aussi en avoir à côté pour pouvoir s'habituer à la présence animale.
Le chat répond à nos besoins de vivre avec des animaux, d'autant plus qu'on massacre à la chasse ou ailleurs tous les autres animaux sauvages, donc il y a de moins en moins d'autres animaux, on va plutôt ne voir que des chats. Les enfants n'ont guère de possibilités de voir réellement des chats, c'est tout ce qu'il reste, hein. Et la biodiversité semble devenir un concept de plus en plus lointain, éloigné des villes. Nous ne sommes plus élevés avec des animaux, ni confrontés à la vraie vie sauvage. Il faudra cependant un jour se poser la question et laisser de la place aux vrais animaux sauvages, qui sont évidemment très importants dans nos habitats, cesser de détruire les habitats naturels. Regardez comment vivent les belettes, les cerfs, les merles, les huppes faciès, les chouettes, les faucons,
les loups. Toute cette diversité.
Et pourquoi pas aussi laisser vivre davantage les vrais chats sauvages.
En ce temps-là, je vivais dans la lune, les bonheurs d'ici-bas m'étaient tous défendus. Je semais des violettes et chantais pour des prunes, étendais la patte au chat perdu. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Un soir de pluie, v'là qu'on gratte à ma porte, je m'empresse d'ouvrir, sans doute un nouveau chat, nom de Dieu le beau félin, que l'orage m'apporte, c'était toi, c'était toi, c'était toi. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Les yeux fendus et couleur de pistache, t'as posé sur mon cœur ta patte de velours. Fort heureusement pour moi, t'avais pas de moustache et ta vertu ne pesait pas trop lourd. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Aux quatre coins de ma vie de bohème, tu as promené le feu de tes 20 ans. Et pour moi, pour mes chats, pour mes fleurs, mes poèmes, c'était toi, la pluie et le beau temps. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Mais le temps passait, fauche à l'aveuglette, notre amour mûrissait, ta peine que déjà tu brûlais mes chansons, crachais sur mes violettes et faisais des misères à mes chats. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Le comble enfin, misérable salope, comme il ne restait plus rien dans le garde-manger, t'as couru sans vergogne et pour une escalope te jeter dans le lit du boucher. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. C'était fini, t'avais passé les bornes, et renonçant aux amours frivoles d'ici-bas, je suis remonté dans la lune en emportant mes cornes, mes chansons et mes fleurs et mes chats. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi.
Voilà, notre époque reste bien médiévale. Nous n'avons pas encore fini de brûler des chats, de voir derrière leurs yeux fascinants des maléfices diaboliques. Pourtant, le chat n'est pas une énigme, mais on lui demande bien trop, à la fois son indépendance et son affection. On exige de lui d'être un chasseur efficace et on lui reproche de détruire la biodiversité de nos campagnes. On lui propose une vie citadine quand il a besoin de nature et on le castre ou l'isole quand il mérite une vie sociale, riche et épanouie. Accusez chat, vous avez bien des circonstances atténuantes. Rien de vous n'égale les contradictions de l'humanité. Venu en même temps que les céréales, le chat a accompagné la culture humaine parce qu'il était un chasseur propre à éveiller la sympathie. Les agriculteurs l'ont domestiqué à leur service et les citadins le gardent comme un repère affectif. Mais voilà, le chat n'est pas à nous. C'est une espèce animale. Il provient lui-même d'une espèce sauvage fascinante et rare et il pourrait retrouver toutes les facultés de ses origines. Faut-il voir dans cette domestication un succès de l'emprise humaine sur les animaux? Ou bien y examiner au contraire l'ampleur de nos échecs, depuis la constitution de l'agriculture et toutes ces sociétés de petits chefs? Faut-il continuer à élever des chats quand la situation de la planète est devenue si critique, entre capitalisme et pillage généralisé? Nous en savons encore si peu sur notre matou. Heureusement, nous pouvons discerner dans ses grands yeux verts toute l'indépendance sauvage qui l'anime et cette rébellion intrinsèque qui fait de notre Matou un vrai révolté et pourquoi pas même un vrai libertaire.
Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez toujours nous contacter en écrivant sur l'email sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et bousculer toutes les idéologies qui l'accompagnent. Vous pouvez aussi écouter et reprendre cette émission sur le site Trou Noir qui accueille nos pages de Science en Liberté. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté animée par Thierry Laudet avec la complicité de Siona et Monique à Paris. La musique d'introduction est Edisham Shaidi et nous allons conclure sur Le chat beauté de Fersen.
Je travaille au chat beauté dans le centre-ville. Je vends l'hiver et l'été des mulons reptiles. C'est mon destin, je suppose, j'ai 15 ans de maison. Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon. Dans le cas de cette fillette qui tend son pied droit, son prénom doit être Berthe Pointure 43. Il est l'heure de mon sandwich, mais je n'ai plus faim. Asphyxié par une péniche, telle sera ma fin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mulins reptiles. Surveille le chat beauté derrière mes lentilles. Au rayon des nouveautés, une longue fille. Elle regarde les savates et puis finalement elle me dit qu'elle convoite les mulets en serpent. Elle me confie son pied nu comme une sœur. Il est fin, petit, menu, bref, sans épaisseur. Je le respire, je le flaire, enfin je l'allume. Je voudrais mettre sous verre ce qui le parfume. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mulins reptiles. Jamais eu au chat beauté cette démangeaison, cette envie de bécoter en 15 ans de maison. Je repousse l'idée sotte, l'idée saugrenue, l'idée de proposer la botte à cet inconnu. Quand soudain le carillon annonce la nuit, et pareil à Cendrillon, la fille s'enfuit, me laissant désappointée, la mule à la main. Elle s'enfuit du chat beauté, passe son chemin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mulins reptiles. Je me faufile dans la réserve, j'entrouvre la boîte. Tout le parfum que conserve la pantoufle droite me traverse les narines, dilate mon cœur, me réchauffe la poitrine comme une liqueur. Moi qui avais le bourdon, j'ai la chair de poule, et même la chair de dindon quand j'éteins l'ampoule. Il me semble être avec elle, elle à mes côtés. Je rêve d'une vie nouvelle, loin du chat beauté. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mulins reptiles. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mulins reptiles.